30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, au surf. Les quatre sports additionnels proposés et confirmés par le CIO pour Paris 2024 sont donc le breaking, l'escalade, le skateboard et le surf. La France, qui pouvait espérer au maximum 6 surfeurs en lice pour les Jeux Olympiques de Paris, en comptera finalement 4 fin juillet à Teahupo, à Tahiti. Les Bleus sont repartis des mondiaux de Porto Rico début mars 2024 avec un sésame de plus que ceux déjà acquis par Johan Defay, Vain Fierro et Colivast avant cette compétition au long cours. Johan Duru, le Landais d'Ondres, champion du monde 2021 au Salvador, et l'élu français, et pourra, comme il en rêvait, achever sa très belle carrière avec, pour point d'orgue, cette épreuve atypique des Jeux Olympiques à Tahiti. Cette édition 2024 des Mondiaux International Surfing Association a été un nouveau bon cru de la part des surfeurs tricolores, excellents techniquement durant toute la semaine. Cornaqué par Jérémy Flores, promu manager terrain, l'équipe de France termine à la deuxième place du classement des nations, derrière l'incontournable Brésil et devant l'Australie. La France, par ailleurs, deuxième au classement masculin et quatrième au classement féminin. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les épreuves de surf se dérouleront sur 4 jours, du samedi 27 juillet au mardi 30 juillet. La compétition aura lieu sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, à plus de 15 000 km de Paris, sur la vague de Teahupo. 2 titres olympiques seront décernés, un pour les hommes, un pour les femmes. Plus qu'une vague, Teahupo fait aujourd'hui partie de l'histoire du surf polynésien. Imaginez une vague qui peut atteindre une dizaine de mètres de haut, un tube gigantesque comme un hangar, quelques centimètres seulement au-dessus d'un fond corallien, tout cela dans un décor naturel paradisiaque. C'est sur cette vague mythique que s'affronteront les meilleurs surfeurs du monde lors des Jeux de Paris 2024. Le surf est né il y a plus de 1000 ans en Polynésie. Bien que l'on considère Hawaï comme le lieu de naissance du surf moderne, le surf se pratiquait déjà en l'an 1000 dans tout l'archipel polynésien. C'est en 1769 que les Occidentaux découvrent le surf à Tahiti grâce au botaniste Joseph Banks, qui faisait partie de l'expédition du navigateur britannique James Cook, 10 ans avant que celui-ci ne découvre le surf à Hawaï. Le surf est ensuite interdit en 1900 par les missionnaires qui avaient colonisé ces îles, effrayés de voir des hommes et des femmes surfer ensemble sans trop de vêtements. Conséquence, le surf tombe un peu aux oubliettes. Alors, comment le surf sort-il du Pacifique pour se retrouver sur nos plages? Eh bien, c'est grâce à l'Hawaïtien Duke Kahanamoku, un champion de natation qui a relancé le surf en faisant des démonstrations en Californie et en Australie. Né à Honolulu, à Hawaï, en 1890, Duke Kahanamoku, l'homme qui a inventé le surf moderne. Il fut un brillant nageur puisqu'il a remporté l'or aux 100 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Duke est un dieu pour les pratiquants. Il présente la discipline aux États-Unis en 1912 et en 1914 en Australie. C'est en 1990, pour le 100e anniversaire de sa naissance, qu'est érigée une statue de bronze à son effigie, à Waikiki. L'écrivain Jack London en remet une couche en 1911, avec son livre « La croisière sur le snark ». Enfin, dans les années 1970, les mythiques Beach Boys inscrivent le surf au panthéon de la pop culture. C'est seulement à la fin du XXe siècle que Teahupo obtient son statut de légende internationale grâce à Laird Hamilton, un surfeur américain. Le 17 août 2000, à 11h38, le surfeur star y surfe The Millennium Wave, la vague du millénaire. Malgré l'immensité du rouleau, Lair Hamilton tient sa trajectoire et reste debout. Ce moment magique sur cette plage de Tahiti sera immortalisé par une photo qui fera le tour du monde et la une des plus grands magazines de surf. Quand on voit ce monstre bleu, on est finalement peu surpris d'apprendre que Teahupo signifie « mur de crâne ». Pour les surfeurs, c'est une espèce de Graal. Il faut se mettre debout en un dixième de seconde. C'est une vague extrêmement dangereuse. C'est la roulette russe. Néanmoins, elle fait partie des 10 vagues les plus belles du monde, nous apprend Hervé Magnifica, historien du surf et auteur de « Terre des vagues ». Logique donc que Teahupo accueille les épreuves de surf pour les Jeux de Paris 2024. Kelly Slater, né le 11 février 1972 à Coa Beach, en Floride, est un surfeur professionnel américain. Il est considéré comme le meilleur surfeur de tous les temps. On peut dire qu'il a déjà tout gagné dans sa carrière. 11 fois champion du monde de surf, il a une maîtrise totale de ce sport. Le surfeur Tom Curran est né le 3 juillet 1964 à Newport Beach, en Californie. Il a lui aussi collectionné de nombreux titres mondiaux en 1985, 86, 90. Poussé dès son jeune âge par son père pour pratiquer le surf, il a réussi à se faire un nom dans ce sport. La planche de surf débarque en France dans les années 1950. Sa ligne est une épure, une perfection. De plus en plus d'adeptes s'essaient à l'équilibre précaire et même périlleuse de la vague, tout à la fois expérience physique et intime, faire corps avec la planche et la vague, et rite initiatique. De loin, on pourrait croire qu'il vole ou qu'il marche sur l'eau, par la magie de ce plancher minuscule et mouvant, intermédiaire entre l'eau et l'humain, qui permet de se tenir debout sur l'élément mobile et insaisissable. La planche de surf, de prime abord, ce sont ces photos 60s et 70s des plages d'Hawaï ou de Californie, où de jeunes gens, beaux, musclés, bronzés, tout en boucles blondes et bermuda colorées, vivent sur la plage en attendant la vague. Culture de la glisse et culte de l'océan se conjuguent pour faire communauté. La planche connaît, techniquement, une multitude de déclinaisons. Quant aux matériaux la composant, à sa longueur, short et longboard, à ses spécificités. Mais avant d'être un accessoire, elle est une partenaire, faisant corps avec le surfeur, qui fera corps avec le rouleau, et donc, par extension, avec la nature. Cette translation allégorique est véritablement mystique, et les grands surfeurs attestent tous de l'expérience ultime que leur a procurée la vague mythique légendaire, attendue des jours durant, les yeux rivés sur l'horizon bleu, la sensation unique d'une fusion avec l'océan, tout en remettant son destin entre les mains d'un tout autre. La pratique n'est pas sans danger, et le plus connu sont les médiatiques et traumatiques attaques de requins qui, prenant les surfeurs pour des tortues, leur font un sort cruel et impitoyable. La planche de surf, c'est donc un objet qui ouvre sur une pratique sportive, des communautés de valeurs et d'appartenance, une philosophie de vie et une mystique. Et tout cela entre en résonance paradoxale avec l'époque. La planche exige patience et humilité. Quand tout doit aller vite et que les moindres faits et gestes sont instagramisés, impossible de faire des selfies au creux de la vague, ou plus encore sur sa crête. L'ère du temps est technologique et numérique. La planche se suffit elle-même, simple, sobre, stylée. Le mouvement viendra d'ailleurs, d'un ressac qui impose son rythme et ses règles. Elle contrevient à la folle impatience qui nous fait vivre sous l'égide de l'instantanéité. Là, attendre patiemment, juste scruter la mer, dans une posture active et méditative que rien ne doit troubler. Tenir sur une planche et faire du surf, cela exige de l'équilibre. Cet équilibre qui, comme métaphore, devient une posture intérieure, une manière d'être et plus encore une manière de vivre. Et cet équilibre, toujours précaire quand on est juché sur sa planche, tant de nos contemporains le recherchent. Elle peut symboliser la conscience écologique et ce regard responsable et empathique sur la nature et les éléments si longtemps négligés. Certes, nous surfons tous les jours, mais en ligne. On est sur la vague numérique, et là aussi, il faut trouver le juste milieu et le bon équilibre afin de ne pas se retrouver submergé.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.